la première lecture nous parle d'un serviteur. Un serviteur qui a plu au Seigneur. Et s'il a plu au Seigneur, si on lit vite ce texte, on peut faire un petit contresens et croire qu'il a plu au Seigneur parce qu'il a souffert. En fait, on peut même se dire, c'est la souffrance qui fait qu'il plaît au Seigneur. Et donc, du coup, on raccourcit encore et on fait, donc la souffrance plaît au Seigneur. Et du coup, on vient de s'imaginer un Dieu tyran qui se réjouit de nous voir souffrir. Évidemment, ce n'est pas comme cela qu'il faut le comprendre. Un constat, il y a le mal, la souffrance et la mort dans notre monde. Et ce serviteur, il le subit comme chacun de nous. Ce serviteur, on sait bien qu'il annonce, on est 550 ans avant Jésus-Christ, et il annonce Jésus. Et c'est lui qui sera ce serviteur par excellence. Donc ce serviteur, il vit la souffrance, il connaît la mort. Il est avec nous. Et c'est peut-être la première chose qu'on peut retenir de ce texte. Dieu est avec nous. Il ne nous laisse pas tomber, même dans les pires moments de souffrance. Dieu est avec nous. Et il nous invite à faire comme lui. À devenir nous aussi serviteurs. En fait, si Isaïe met ce serviteur en exergue, c'est pour que nous soyons nous aussi des serviteurs. Que nous aussi, à travers la souffrance et la mort, à travers les difficultés de notre vie quotidienne, nous sachions faire comme le serviteur, nous mettre au service. Autrement dit, aimer. Voilà, il nous donne son exemple. En fait, il nous révèle une chose, c'est que lorsque nous traversons la souffrance et la mort, il y a deux solutions. Soit nous nous révoltons et cette souffrance et cette mort n'auront toujours aucun sens, parce que ce n'est pas le projet de Dieu, parce que la souffrance et la mort, ça va même contre le projet de Dieu. Dieu nous a créés pour la joie et le bonheur. Soit nous entrons dans cette souffrance et dans cette mort en l'accueillant et en trouvant à travers elle le moyen d'aimer un peu mieux. Est-ce que cela veut dire qu'il faut donc laisser tomber et ne pas chercher à changer les choses? Non, c'est pas ça que ça signifie. Ça signifie que moi, aujourd'hui, la souffrance qui m'est donnée, de fait, je ne l'ai pas choisie. Je suis invité à aimer à travers elle et par elle. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je me satisfasse de cette souffrance et je ne suis pas masochiste. Et le Seigneur ne nous invite pas à l'être. Dieu est avec nous. Il nous donne un exemple par son serviteur. Cet exemple, c'est de donner du sens, même à la souffrance. Alors ce serviteur annoncé 550 ans avant Jésus-Christ, nous savons qui c'est. C'est Jésus, Fils de Dieu, pleinement homme. Il est Dieu et homme. Dieu est avec nous, Emmanuel. Et c'est ce que veut souligner la lettre aux Hébreux. Et c'est la deuxième partie. Deuxième lecture. La lettre aux Hébreux nous parle d'un grand prêtre. Et vous savez, dans l'Ancien Temps, donc c'est vrai pour l'Ancien Testament, c'est vrai aussi pour toutes les religions païennes, le grand prêtre, c'est un homme qui est séparé des autres hommes pour le mettre un peu plus près de Dieu. Et ce grand prêtre, il est chargé de parler des autres à Dieu, de présenter le peuple à Dieu, de faire le pont. Mais évidemment, et c'est tout le point de la lettre aux Hébreux, c'est que ça ne marche jamais vraiment. Un grand prêtre, il garde son humanité, il n'est jamais tout à fait au niveau de Dieu. Donc il ne peut pas parler d'égal à égal avec Dieu. Et puis, il est tellement mis à part des hommes que du coup, comment est-ce qu'il peut porter vraiment le souci de tous les hommes ? C'est pour cela qu'il n'y a qu'un seul prêtre, qu'un seul grand prêtre, et c'est Jésus. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. Pourquoi ? Parce que lui, il est tout à fait à l'égal de Dieu, il est Dieu. Et il parle à son Père comme un fils parle à son Père. Et il reçoit la parole de Dieu comme il recevrait la parole de son Père. Il la reçoit de son Père, quoi. puis, il est né d'une femme. Il a grandi, il a appris à marcher, il a appris à parler, il est allé à l'école, il a appris un métier, et il a souffert et il est mort. Il est un homme. Jésus, Dieu et homme. Il est pleinement Dieu, pleinement homme, et du coup, lui peut être le grand prêtre, le pont qui nous manquait. Et le contact est possible. Le contact est possible. Il a éprouvé toutes choses, toutes nos faiblesses, toutes nos limites, excepté le péché. Alors nous avons en lui le meilleur grand prêtre, le meilleur avocat que nous puissions espérer. Dans l'Évangile, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, celui que Jésus a surnommé les fils du tonnerre, ils s'approchent de Jésus. Ils ont bien compris, hein, on est au chapitre 10, depuis maintenant deux chapitres, ils ont bien compris que Jésus était Messie, prêtre, prophète et roi. Et ça, roi, ça les a touchés. Et donc du coup, ils se disent, le roi, il va avoir du pouvoir, il va avoir de la puissance. Donc, maître, donne-nous de siéger l'un à ta droite, l'un à ta gauche, que nous soyons premier adjoint, deuxième adjoint. Que nous soyons tes ministres préférés. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, il l'a déjà fait, il y a déjà eu des demandes un peu de ce genre-là. Hein. Vous savez, c'est à ce moment-là qu'il leur présente un enfant en leur disant « Il faut être comme cet enfant si vous voulez pouvoir avoir de bonnes places dans le royaume de Dieu. » Jésus ne leur dit pas non. Il leur pose la question « Vous ne savez pas ce que vous demandez ? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Jésus, vous le savez, est venu annoncer la bonne nouvelle. Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu veut prendre soin de nous et Dieu nous appelle à aimer en retour, comme lui. Et c'est une bonne nouvelle qui, intellectuellement, nous va bien. On est tous d'accord pour dire oui, c'est important d'aimer. Et puis après, quand il faut passer à la mise en œuvre concrète et pratique, quand il faut aimer mon voisin qui est un petit peu insupportable, ou ma belle-sœur qui est un peu pénible, ou ma belle-mère, n'en parlons pas, et des belles-filles. Et je ne parle pas des gendres, mais c'est pareil. Hein. Eh bien, ça devient un peu plus compliqué. Et que quelqu'un qui nous répète sans cesse, « Si, si, tu dois aimer ta belle-mère, tu dois aimer ton gendre, tu dois aimer ton petit-fils, tu dois aimer ton voisin », au bout d'un moment, on le trouve un peu insupportable. Et c'est ce qui se passe. Les pharisiens qui pensaient, qui croyaient être vraiment bien dans la loi, eh bien, Jésus leur met sans cesse le nez voilà, dans leurs limites. Et donc, ils vont finir par vouloir la mort du juste. La mort de celui qui les remet en cause en permanence. C'est très humain, hein. En fait, si on cherche un peu au fond de notre cœur, nous, on en serait capable. Ah, ici, avec un petit peu de pression de la foule, on y arriverait, je pense. C'est pas bon signe, hein. Et Jésus leur dit, donc sais où est-ce qu'il va. Les menaces commencent à planer. La mort vient. La souffrance et la torture viennent. Et Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? Et eux, sur deux, oui, nous le pouvons. Et Jésus leur fait une prophétie, une promesse. Vous boirez la coupe, vous serez baptisés du baptême. Et effectivement, Saint Jean comme Saint Jacques ont subi le martyre, ils sont morts pour avoir annoncé la parole de Dieu, pour avoir prêché l'amour. Et quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Oui, parce que le Christ sur son trône de gloire, il était encadré par deux autres, deux larrons. Alors on peut espérer, il y en a un dont on sait qu'il est sauvé, puis on peut espérer que l'autre l'est aussi en fait. Hein. Ce n'est pas marqué dans l'Évangile, mais... Et ce qui est très intéressant, c'est que les dix autres, on aurait pu se penser qu'eux, ils avaient compris déjà que le Messie, qu'est Jésus, ce n'était pas tout à fait le roi en mode humain. Ils n'ont toujours rien compris. Et ils s'indignent contre Jacques et Jean. Ils viennent d'entendre la réponse pourtant. Non, mais eux, ils veulent la première place et nous, alors. Et Jésus les appelle et les enseigne. Pour vous, vous ne devez pas être comme les puissants de la terre, Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave. On a déjà vu mieux comme démarche commerciale, hein. Voilà. Si vous voulez trouver la vraie joie, si vous voulez vraiment entrer dans le royaume de Dieu, soyez des esclaves. Mettez-vous au service, même de ceux qui ne vous plaisent pas. Mettez-vous au service, même quand vous êtes fatigué, même quand ça fait déjà plein de fois qu'on a servi. Hier soir, on a eu la joie de fêter, pendant la messe, de bénir un couple qui fêtait ses 30 ans de mariage. 30 ans de mariage. Il y a 30 ans, ils se sont dit, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer. Et depuis 30 ans, et parmi vous, il y en a déjà qui en sont à ce stade-là, il y en a qui en sont un peu moins, qui le seront bientôt, bon. Mais on est tous appelés à ça. Et pendant 30 ans, tous les matins, il faut se dire, je suis là pour ta joie et ton bonheur. Et il y a des matins où on a plutôt envie de compter. Il y a des matins où on se dit, ouais, ça fait quand même 8 jours qu'il ne m'a rien fait, il ne m'a rien dit de gentil. Et non, le Seigneur nous appelle à être esclaves, donc à ne pas compter, à aimer, sans relâche. Là, vous allez me dire, c'est pas très confortable. C'est vrai. C'est pas très facile. C'est encore plus vrai. De fait, le Seigneur ne nous propose pas un chemin facile. Mais il nous propose la vraie joie et le vrai bonheur. Et il nous la garantit. Rappelons-nous de cette première lecture. Il nous le garantit, il est avec nous. Il est avec nous, sans cesse. Il ne nous laisse jamais tomber. Tout ce que nous avons connu, tout ce que nous pouvons connaître, il le connaît avec nous. Vous connaissez ce petit texte, a priori d'origine brésilienne, qui, avec cette histoire de « à la fin de ma vie, il y avait, je me suis retourné, j'étais avec le Christ, je me suis retourné, il y avait sur la plage deux traces de pas. Puis je me suis rendu compte que il y avait des moments où il n'y en avait plus qu'une, et j'ai réalisé que c'était les moments les plus compliqués, les plus difficiles, les plus désagréables de ma vie. Alors je me suis tourné vers le Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, au moment les plus compliqués, tu m'as laissé tomber. Et Jésus répond, vous le savez bien, hein, je ne t'ai pas abandonné, je te portais. De fait, pour nous, c'est pas très sensible. Effectivement, les moments les plus compliqués de notre vie, ils restent les plus compliqués. Mais nous savons que le Seigneur est avec nous. Alors chaque jour, décidons d'aimer un peu plus, un peu mieux. Reprenons cette décision qu'est l'amour. Appelons le Seigneur au secours. Ouvrons-lui notre cœur. Il se donne à nous chaque dimanche, à chaque messe. Il se donne à nous chaque fois que nous décidons de prendre un peu de temps pour lui, avec lui, dans la prière. Alors accueillons-le. Il vient.